On a peu l'occasion d'être spectateur du quotidien d'une classe. Brut, sans phare, fait de perfection et d'imperfection, de coups de génie et d'imprévus. Parce qu'on pense que le réel des classes est le meilleur terrain de réflexion et d'amélioration pour nos pratiques d'enseignement, nous vous ouvrons leurs portes. Nous vous invitons à découvrir ces outils pédagogiques afin qu'ils deviennent les vôtres. Bienvenue dans la saison 3 d'Être prof, le podcast. Une série audio dans laquelle enseignantes et enseignants vous partagent leurs pratiques du quotidien, de la maternelle au lycée. Épisode 34. Identifier les compétences à mobiliser à partir d'un sujet. Afin de familiariser ses élèves avec ce qu'on attend d'eux lors du bac d'anglais, Francine, enseignante en terminale à Saint-Ouen-de-l'Aumône, présente à ses élèves le barème de notation. De là, les plus petits pas se dessinent pour les jeunes bacheliers pour aller à la rencontre de ses attentes et ainsi améliorer leur production pour s'approcher au plus près du prescrit.
Bonjour Francine.
Bonjour Nathalie.
On va regarder ensemble sur cette heure, tout simplement avec la grille de notation, comment vous allez pouvoir soit vous rassurer, soit vous mettre un petit coup de boost pour que vous colliez exactement à ce qu'on attend d'un élève de terminale avec la grille du bac, et donc d'un candidat au bac. Quand on est un candidat, quand on passe un concours par exemple, alors ça c'est un examen, il faut savoir à quelle sauce on va être mangé en fait. Quelles sont les compétences que l'on attend de nous? Quelles sont les choses importantes?
Alors passer une heure avec du futur bachelier, c'est une réelle expérience pour moi. Merci de m'offrir cette opportunité. Est-ce que tu veux bien nous présenter l'activité à laquelle on a assisté?
Alors, nous sommes partis avec... C'était un demi-groupe de Terminal Bac Logistique, donc on appelle ça les T-Backlog, qui en fait ont tous travaillé sur une tâche finale, qui est une préparation en fait à l'oral d'anglais qu'ils vont avoir à faire. Donc nous avons travaillé sur la grille de notation de la partie B de leur épreuve d'anglais, c'est-à-dire la partie où ils vont s'exprimer à l'oral. Et c'est scindé en deux parties. La première, c'est l'oral en continu, et la deuxième partie, c'est l'oral en interaction. Donc l'oral en continu, c'est comment est-ce que nos élèves, pour devenir des candidats, doivent répondre à des exigences, institutionnelles, d'une grille de bac. Donc, en s'appuyant sur ce qu'ils ont fait, on a essayé de voir comment ils se positionnaient dans la grille de degré de notation de la grille de bac et voir comment ils allaient pouvoir monter dans la grille et surtout éviter d'avoir peur parce que c'est un des points les plus importants chez eux. Ils ont peur, ils pensent qu'avec leur prononciation, ils ne vont pas y arriver.
Le sujet de bac, il est déjà déterminé? Il me semble avoir entendu poindre comme ça le sujet, c'est-à-dire qu'on sait de quoi va traiter ce sujet.
Alors en fait non, parce que chaque candidat peut choisir un sujet de son choix. Il doit rendre compte d'une activité faite en classe, mais ça peut être une activité professionnelle qu'il va détailler en anglais, tout simplement pendant son stage, par exemple, il va développer quelque chose. Ça peut être une thématique qu'on a fait en anglais, donc on a fait sur le cinéma, sur les séries télé. On a fait aussi sur les chansons engagées, on a fait sur l'histoire des Noirs américains, on a fait sur les super-héros. Bref, on a balayé beaucoup de thématiques qui peuvent s'imbriquer les unes dans les autres et nourrir en fait leur réflexion. Et donc, ils doivent décider d'une thématique et la présenter.
Tu pars, tu fais le choix de partir de leurs difficultés.
Sur la préparation de votre on va dire, sujet de bac, ce qu'on s'entraîne depuis le début, où vous êtes censé me rendre des pistes sonores. Qu'est-ce qui vous pose problème?
De parler, avoir l'accent, de bien avoir l'accent. Et...
la prononciation.
Ouais, la prononciation. Et avoir aussi le temps. Parce que quand j'écris quelque chose, quand j'essaie d'écrire quelque chose en anglais, et j'ai fait la piste sonore, je faisais 1 minute 30, 1 minute 35. Ouais. Et c'était ça le problème.
Tu saurais les catégoriser?
Alors la difficulté, c'est la prononciation. La difficulté, c'est agencer les mots et manquer de vocabulaire. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont aussi mis en lumière la longueur de leur prise de parole, en fait. Ils ont à chaque fois peur de ne pas parler suffisamment, de ne pas en fait produire suffisamment de phrases correctes en anglais.
Tu leur proposes une grille de notation?
Ça, c'est la grille de notation que votre jury d'examen va avoir sous les yeux et va compléter pour l'examen. On va s'intéresser à votre préparation personnelle pour le bac, c'est-à-dire ce qui est noté sur 4 points dans la colonne de gauche. Qui me lit le degré 1 ? Allez, je vous écoute.
S'exprimer à l'aide des mots isolés, d'expressions et ou d'énoncés très courts. Stéréotypes avec de nombreuses pauses. S'exprime dans une langue peu ou partiellement compréhensible. S'exprime en prenant exclusivement appui sur éventuel support de présentation.
J'ai compris que c'était la grille de notation qui est utilisée à l'oral du bac. C'est quoi ton intuition de travail à ce moment-là, de leur présenter la grille et de travailler à partir de cette grille ?
En fait, c'est dans un premier temps de les rassurer. C'est-à-dire que de leur permettre de voir que malgré la faible image positive qu'ils ont d'eux-mêmes, ils ont des compétences, ils ont des facilités, mais ils ont peur. Parce que le plus grand ennemi d'un élève ou même d'un apprenant en langue, c'est déjà lui-même. Parce qu'il a peur du regard de l'autre. Il n'ose pas parce qu'on va se moquer de lui. Il n'ose pas parce qu'il parle mal, il a un mauvais accent. Donc les autres vont rigoler, etc. Et en fait, on s'empêche soi-même d'oser tout simplement parler à l'oral. Là, en leur démontrant que même dans le degré le plus haut, qui est le degré 4 de la grille, on ne leur demande absolument pas d'avoir une syntaxe parfaite. On ne leur demande pas d'avoir un accent parfait. On leur demande juste d'être compréhensible et que même s'il y a des erreurs, du moment que le sens n'est pas, on va dire, n'est pas faux et du moment que l'idée elle est toujours là, on ne va pas les pénaliser.
Ok, vous pouvez me donner le barème pour ça, pour un candidat qui parlerait en degré 1.
1 point ou 0,5 point.
Voilà, on est sur quelque chose de très court, de pas du tout structuré et ce ne sont que des mots. Des faux démarrages, c'est-à-dire qu'il y a un début de phrase et puis il n'y a plus rien. Et on attend doucement que en fait, les phrases arrivent, mais elles n'arrivent pas. En tout cas, on ne comprend pas tout ce que nous raconte l'élève.
Derrière ce que tu dis, il y a un rapport à l'erreur et un rapport à la perfection qui est très fort, non ?
Ils ont toujours pour image que de toute façon, ce n'est pas la peine d'essayer parce que je n'y arrive pas. La plupart disent « moi, je n'aime pas l'anglais, de toute façon, je n'y arriverai pas ». Donc, ils se coincent tout simplement dans un schéma négatif. Alors que là, en partant de la grille, en leur montrant que les erreurs étaient même dans le degré le plus haut de la grille de notation acceptée, j'espère leur avoir montré qu'en fait, avec des petits pas vers quelque chose et toujours essayer de s'améliorer, ils vont de toute façon gravir les échelons des degrés. Et que même s'ils commettent des erreurs de prononciation, des erreurs de tout simplement de syntaxe, bah, ils ne seront pas forcément pénalisés pour ça. Donc, en plus, dans un des degrés, on leur dit qu'ils peuvent carrément se corriger et qu'au contraire, on va apprécier le fait qu'ils se corrigent.
Degré 4. Produit un discours assez nuancé, informé et exprime un point de vue pertinent. S'exprime dans une langue assez fluide, avec une prononciation claire et relativement correcte. Les erreurs de langue ne donnent pas lieu à malentendus et utilisent à bon escient ces éventuels supports de présentation.
Qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre le degré 4 en langue ?
Il faut qu'elle soit fluide.
C'est un sacré défi pour eux de passer de cette grille à la réalité, à ce que ça évoque en réalité dans leur production. Qu'est-ce que tu as réussi à identifier chez eux de leur manière de s'approprier cette grille et de s'approprier les attendus ?
J'ai eu l'impression que pour beaucoup, ça avait été révélateur en fait, de leurs compétences. C'est-à-dire qu'un de mes élèves, plus particulièrement Boubacar, est pas super costaud en anglais. Voilà, il a des problèmes de lecture, des problèmes de dyslexie, bref, il a peur. Et il a une très faible image de lui-même. Par contre, il a su analyser qu'il n'avait peut-être pas assez donné son avis personnel, qu'il allait devoir travailler sur le vocabulaire, qu'il allait, par petites touches comme ça, pouvoir augmenter. Et il s'est rendu compte, parce que c'était son inquiétude de ne pas avoir un volume suffisant de phrases en anglais, en fait, qu'avec tout ce qu'il allait augmenter et apporter en plus à sa première version de voix à l'oral qu'il m'a faite,
et ben en fait qu'il allait gagner du temps, qu'il allait gagner des secondes, des minutes de présentation, et que fin de compte, il allait se rapprocher de plus en plus des exigences du bac.
Oui, on les entend évaluer leur production à l'aune de cette grille. Tu as été surprise par des propos et des retours de tes élèves ?
Je pense qu'ils n'étaient pas si fous que ça dans leur manière de se notifier par rapport au degré. C'est-à-dire que Boubacar m'a dit « moi, je suis dans le degré 2 ».
À vue de nez, vous seriez dans quel degré si je devais noter votre premier envoi de piste sonore ? Vous vous situeriez comment ? C'est valable pour les autres. Hein. Si vous m'avez envoyé votre piste sonore, dites-vous où est-ce que vous vous situez dans la grille ? Degré 1, degré 2, degré 3, degré 4 ?
Je pense pour le moment degré 2.
Donc qu'est-ce qu'il faudrait améliorer dans ce que vous m'avez fait pour que votre présentation colle aux exigences de la grille de bac ?
Mettre plus d'informations pour moi, je pense.
Plus d'infos ?
Plus d'infos.
Ok.
Je dois avouer qu'avoir juste un tout petit peu écouté ce qu'il avait fait, sans prendre de notes, etc. Effectivement, il est dans le degré 2, mais peut-être que déjà, sur certaines phrases, il pourrait presque être au niveau 3 du premier coup. Donc là, apparemment, il serait volontaire pour refaire. Hein. Donc je lui ai dit que j'allais comparer les deux pistes sonores et montrer effectivement comment est-ce qu'il a augmenté. Je pense qu'il va, s'il apporte un tout petit peu plus de détails personnels, de culture, de donner son avis, de paraître informé, il va forcément monter de degré.
Donc là, on assiste à cette première séance, en tout cas je l'ai entendu comme telle, hein, de cette présentation de la grille. Comment tu les accompagnes jusqu'au bac pour la rendre réelle dans leur travail de préparation ? Quelle progression finalement ?
Alors la progression, déjà, faut savoir que chaque année, presque, quand on travaille sur les travaux à rendre, il y en a un par période, c'est-à-dire à peu près pour chaque vacances, ils doivent me rendre une piste sonore, parce que justement, je veux voir la gradation, comment ils s'approprient le fait de devoir parler, comment est-ce qu'ils gagnent en fluidité, est-ce qu'ils s'interrogent sur les bonnes choses à modifier pour la prochaine, avec mes conseils, mes points positifs, ce qu'il faudrait améliorer, etc. Ça, c'est une première partie. En première, généralement, ils n'en ont un peu rien à faire. Même en terminale, en septembre, ils ne perçoivent pas encore tout à fait la réalité. C'est-à-dire que, ouais, bah, c'est bien, on a l'épreuve d'anglais, on sait. Là, on arrive à la fin du premier semestre. Ils vont repartir en stage de manière très rapide après les vacances de février. Bref, nous allons avoir un second semestre tronqué. Donc, ils sont dans l'urgence. Ils commencent à se mettre au bachotage, à proprement parler. Donc moi, je les accompagne parce qu'ils vont devoir définir une thématique. Tous ne vont pas le faire, mais certains vont jouer le jeu. C'est-à-dire qu'ils vont me produire à l'écrit ce qu'ils vont dire le jour de l'oral d'anglais. Moi, je vais corriger, je leur demande de travailler sur Word parce que de me faire un interligne 1-5 pour que je puisse mettre des commentaires au fur et à mesure et pouvoir apporter des suggestions, leur demander d'améliorer, de peut-être voir des synonymes pour que ce soit plus pertinent, plus élaboré dans le vocabulaire choisi. Et puis en même temps, ce qu'ils doivent améliorer en apport, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont assez parlé de choses culturelles, est-ce qu'ils se sont assez informés. Bref, je reprends la grille en les aiguillant. Et ils vont faire un travail d'aller-retour entre leur ordinateur et moi, et ils vont augmenter. Après, le travail de bachotage, de répétition, ils vont devoir le préparer seuls.
Après avoir évalué leur propre production au regard de la grille que tu leur as proposée, tu leur proposes des pistes d'amélioration. En tout cas, tu leur proposes qu'ils proposent, eux, des pistes pour améliorer. J'adore l'idée des séries.
Est-ce qu'au niveau du vocabulaire, vous pensez que vous allez pouvoir améliorer ?
Oui.
En faisant quoi ?
Pas plus de lecture en anglais et ouais. D'écoute.
Plus d'écoute, les prononciations qui, ouais, par ça. Exemple, écouter, par exemple, ça va être bête, mais écouter plus de séries en anglais, comment ils disent le mot, tu mets pause et t'essaies de répéter comment il l'a prononcé. Et...
Ouais.
Est-ce qu'ils ont d'autres idées originales comme ça pour améliorer leur niveau d'anglais ?
Et voilà, c'est, en fait, c'est tout ça. Il y en a un qui m'a dit, bah, toujours Boubacar, moi, il faut que je regarde de plus de séries en anglais, il faut que j'écoute. Voilà, après, je sais que le temps, c'est On a tous un peu la flemme, hein, quand il faut mettre en VO, c'est fatigant, ça plaît pas forcément à ceux qui sont sur le canapé à côté de nous en train de regarder la télé. Bref, même s'ils ont des écrans maintenant un peu plus pas individuels, c'est vrai que certains se rendent compte du travail qu'ils vont avoir à faire et bah moi je suis plutôt contente et satisfaite quand même si c'est quelques semaines avant le bac qu'il y ait cette prise de conscience.
Parce qu'on est bien d'accord que des élèves en bac pro, l'anglais, c'est une vraie motivation pour eux ou c'est à toi de les motiver ?
Alors, je dirais que l'anglais n'est pas leur tasse de thé pour faire rester dans la thématique. Sauf que, par exemple, pour les logistiques que tu as vues, c'est encore différent parce qu'ils ont la LV2 en plus, obligatoire. Donc, eux, ils ont l'espagnol en plus. Donc, on se retrouve dans une dynamique où les langues sont importantes. Et il faut savoir qu'au bac pro, le bloc professionnel, s'il n'est pas à 10, ils n'ont pas leur bac. Quand bien même, ils ont 16 de moyenne au bloc général. Et pour avoir le bac en voie professionnelle, il faut que le bloc général soit compris entre 8 et 10 pour pouvoir passer le rattrapage. Donc ça veut dire qu'un élève qui peut exceller dans une matière professionnelle, dans tout le groupe professionnel, il est excellent. Mais en fait, dans tout ce qui est matière générale, il est à la peine. Il peut très bien ne pas avoir son baccalauréat parce que les matières générales ne seront pas suffisamment bachotées, préparées, ou en tout cas, on n'aura pas réparé les lacunes précédentes. Donc c'est pour certains déjà, ils ont été bien abîmés par les années collège. On les récupère au lycée. Alors les bacs que tu viens de voir en terminale log, il faut savoir que la seconde, elle est indifférenciée. Et en première, il y a des vœux à FENNET où là, en fonction de ce qu'ils veulent faire, ils vont avoir les vœux de l'établissement qu'ils auraient choisi ou pas. Donc pour certains, c'est encore en défaut qu'ils sont chez nous, en première et terminale. Parce qu'ils voulaient peut-être faire gestion et administration, qu'on appelle GA. Ils ne voulaient pas être en logistique, ils voulaient être ailleurs, ils voulaient faire autre chose. Mais ils se sont retrouvés parce qu'il n'y a pas de place. Donc pour certains, il faut déjà combattre un peu l'ennui d'être pas là où on voudrait être. Il faut accepter qu'on ait encore des élèves nouveaux dans une division qu'on avait l'année d'avant parce que ça a remélangé et on a mélangé les cartes, entre guillemets. On ne se retrouve pas du tout avec les mêmes 24 élèves. Et accepter que même en première, on soit obligé de revoir les bases parce que pour certains, en seconde, ils n'étaient absolument pas prêts. Pour eux, c'était juste une année supplémentaire sans forcément réfléchir que le bac, ça se prépare en 3 ans. Et toute cette pédagogie de l'encouragement, elle se passe de la seconde à la première et encore en terminale. Et pour certains, ils ont du mal à prendre conscience que oui, le bac, on ne le donne pas.
Donc le degré 3, il y a plein de mots qui viennent se mettre en plus dans cette grille d'évaluation du degré 3. Il y a quoi ? Pertinent, ça veut dire quoi ?
Clair. Clair.
Clair, pas forcément...
Intéressant.
Intéressant, juste. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme autre synonyme ?
Compréhensible.
Pardon ?
Compréhensible.
Ouais, compréhensible... Non, je dirais pas que c'est tout à fait ce terme-là. Pertinent, c'est-à-dire qu'il y a du sens.
S'il y a eu un moment dans ta carrière où tu n'as pas utilisé la grille d'évaluation comme moteur d'amélioration d'un travail, est-ce que tu vois la différence entre le moment où tu n'utilisais pas ce type de pédagogie en lien avec, je dirais, l'explicitation des attendus, et maintenant, est-ce que tu vois une différence ?
Je vois une différence parce qu'elle est de plus en plus concrète. Elle est de plus en plus efficace et elle banalise vraiment 3 domaines dans chaque degré, c'est-à-dire la langue, les idées et la relation avec le support qu'ils utilisent. Donc vraiment, ça, on voit la différence, oui, quand on analyse bien cette grille et qu'on leur présente. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas au courant. C'est vraiment important de prendre ce temps avec eux parce qu'il ne faut pas croire que ce soit la tête du candidat. Non, on a des éléments à noter. Et que quand on hésite, que comme je leur ai dit, j'hésiterai entre 0,5 et 1, moi je mettrais 0,75, je suis obligée de valoriser le candidat et de lui mettre le point, le demi-point supérieur. Donc il passe à 1. Donc ça veut dire que même si c'est pour moi encore un peu limite, la grille fait que ça va les favoriser. Mais oui, il y a une différence.
Et du coup, ça donne à voir et ça donne à entendre qu'il y a des critères objectif pour noter un élève.
Voilà, c'est vraiment très codifié. On a vraiment une grille à remplir. Ça prend du temps entre chaque candidat. Ça prend du temps, même entre la première et la deuxième partie. Pourtant, on aime bien enchaîner parce qu'on sait qu'il y a le stress, on essaie de faire en sorte que l'épreuve se passe et se déroule le mieux possible pour le candidat. Mais c'est vrai qu'entre chaque candidat, je prends énormément de notes et cela me permet après de revenir sur cette grille de notation pour noter au plus juste et vraiment tous les items de chacune des sous-parties du degré. On vous parle de quelle dimension, là ?
Professionnelle.
Professionnelle et ?
Culturelle.
Ça veut dire que si on prend l'exemple, par exemple, des séries télé, parce que l'année dernière, vous aviez travaillé sur les séries télé. Si on est là-dessus, qu'est-ce que vous allez devoir démontrer pour que ça corresponde à quelque chose de culturel ?
Des exemples.
Des exemples ? Ouais, ça c'est quelque chose que vous allez fournir des éléments. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Vous n'avez pas d'idée ? Bah, par exemple, démontrer que les séries, c'est tendance.
Est-ce que tu dirais que ces compétences, finalement, ce sont des compétences métacognitives, c'est-à-dire passer d'une grille d'évaluation et d'essayer de voir ce qu'il y a derrière pour s'améliorer ? Est-ce que tu le mettrais sur ce registre-là ?
Oui, enfin, ça me paraît évident parce que quand on sait vers quoi sur quoi on va être noté, en fait, les attendus, on est capable de beaucoup mieux se préparer et déjà d'avoir un peu moins peur. Je mets ça en parallèle souvent avec le permis de conduire. On va être noté sur de la conduite, sur la gentillesse que l'on peut apporter aux autres usagers, dans son milieu, etc. On va être noté sur les contrôles. On sait exactement vers quoi l'examinateur, en plus maintenant c'est une grille de points encore plus pour le permis de conduire, donc c'est très très codifié aussi. C'est rassurant. On sait vers quoi est-ce qu'on doit tendre et je pense que c'est nécessaire que les candidats sachent exactement. Ils connaissent les grilles. Est-ce que vous pensez qu'avec cette fiche-là, maintenant, vous seriez rassuré par rapport à l'envoi de votre fichier ? Je sais que Boubacar, vous me l'avez envoyé.
Oui, moi, je...
Ouais. Est-ce que vous pensez qu'avec ça, maintenant, vous pourriez le refaire ?
Oui, j'ai envoyé. Oui, je pense.
Est-ce que vous comprenez comment améliorer votre piste sonore ?
Déjà, mettre plus de détails sur la chanson que j'ai présentée.
Sur la chanson engagée.
Faire quelques pauses, non pas quelques pauses, enfin, des fois, il y a des mots, la prononciation, améliorer la prononciation.
Du coup, on mettra dans les notes de l'émission une ressource d'être prof sur justement ces compétences métacognitives qui sont de plus en plus mises en avant pour faire progresser nos élèves. Est-ce que tu utilises ce type d'approche avec des grilles critériées pour chacune de tes activités et pour chacun de tes niveaux ?
Alors, par rapport aux grilles de bac, je l'utilise en deuxième partie d'année avec les premières et avec les terminales. Ça, c'est évident. Pour les secondes, généralement, j'adapte. C'est-à-dire que je fais des degrés, mais je suis un peu plus large dans mes exigences. C'est-à-dire que c'est beaucoup moins précis. Par exemple, le rapport avec le support, je ne le mets pas parce que dans un premier temps, je sais très bien qu'ils vont lire et je leur laisse. Justement, j'ai bien précisé qu'il y avait cette différence entre l'entraînement et la réalité du bac. Et Boubacar l'a très bien dit. Il m'a dit, voilà, si j'étais devant vous, j'essaierais de ne pas lire parce que, voilà. Donc, ils ont parfaitement compris.
Et aussi, sur l'utilisation du support.
Ouais, mais là, à la limite.
Parce que là vu que je ne vous avais pas en face de moi,
ouais.
Je pouvais me permettre de lire que le support. Mais si j'étais avec vous, si j'étais en face de vous, je pense que je serais minimum degré 1. Parce que je serais que en train de lire mon support.
Donc pour les secondes, généralement, je fais des grilles de notation, mais qui sont adaptées. Parce que je n'ai pas les mêmes exigences, évidemment, entre la seconde, la première et la terminale. Il faut une gradation.
Pour finir ces questions, est-ce que si tu fais un flashback sur la lycéenne que tu étais, est-ce que tu savais ce qu'on attendait de toi à l'école, au lycée ?
Non, dans le sens où c'était une dissertation. Et la dissertation, c'était drôlement plus aléatoire. Parce que en fonction de comment j'avais traité le sujet, si j'étais hors sujet, c'était même pas la syntaxe qui était notée, même pas les formulations de phrases, le vocabulaire choisi. Même si je sais qu'il y avait des recommandations, comme dans toutes les épreuves, on recommande, on adapte, les inspecteurs nous demandent de valoriser telle et telle chose, de valoriser n'importe quel effort du candidat vers telle et telle notion. Moi, j'avais vraiment l'impression que, comme pour les concours, c'est-à-dire que, une dissertation, on tombe après une copie médiocre et on a écrit quelque chose de moyen, du coup, on va avoir une bien meilleure note que passer derrière une copie excellente où là, on sait que ça ne va pas être la même chose. Donc, c'est même si en bac professionnel, il y a cette partie écrite, mais là aussi, on met des critères très serrés. Et à chaque fois, ce sont des compétences qui sont sur 4 points. Donc, le côté aléatoire, on va dire, il est sur moins de points que pouvait l'être la lycéenne que j'étais il y a maintenant un sacré paquet de temps. Et voilà, c'était plus, c'était qui tout double. Voilà, ouais, j'avais un peu cette impression-là. Maintenant, votre mission, c'est de me reprendre ce que vous avez fait. OK ? De me mettre Boubacar, vous mettez piste numéro 2. Et moi, je vais écouter la différence. Et je vais vous dire, ouais, là, vous avez bien compris vers quoi il fallait tendre. Ceux qui ne me l'ont pas rendu, fort de tout ce qu'on a fait aujourd'hui, vous y allez à fond et vous m'envoyez le truc, s'il vous plaît, avant jeudi, parce que les notes se bouclent vendredi.
Et si tu devais choisir d'incarner une super-héroïne quand tu es sur ce type d'activité, tu choisirais quelle héroïne ?
Une héroïne ? Ah, Mary Poppins. Parce que j'essaie toujours de tirer de mon sac des choses un peu rigolotes qui leur permettent de percuter, qui sont des éléments concrets. Pour améliorer leur quotidien. C'est-à-dire que, c'est tel élément qui va peut-être vous permettre de gravir un degré. Voilà, c'est à chaque fois trouver des idées, farfouiller. Ou alors Hermione Granger qui a son espèce de petit sac où elle a tout dedans. Ça, je rêverais. Voilà.
Merci en tout cas, Francine.
De rien. Merci beaucoup.
C'était Être prof, le podcast. Une série audio animée par Nathalie Dreyfus, enregistrée par Yanis Docuto, Théo Cancelli et Laurine Bonnefoy, montée par Jeanne-Marie Desnos, réalisée et mixée par Benjamin Massé et Yann Thierry, et produite par l'Acmé Productions. Si vous avez envie d'approfondir le sujet, retrouvez plus de ressources sur êtreprof.fr.